minute interview. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer sur Radio Plein Ciel Monsieur Kamel Amouche. Il a été élève dans les premières années du Collège Marseguin. Cette année, le Collège Marseguin a 40 ans.
En préparant cette interview, nous avons essayé d'imaginer à quoi ressemblait Moreno à cette époque.
Nous avons découvert que l'ouverture du collège correspondait à la période de construction de grands ensembles comme la Tour Plein Ciel.
Cette interview est réalisée dans le cadre de l'accompagnement personnalisé.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors je m'appelle Amouche Kamel, j'ai 51 ans, je suis né au Marais, rue des Assyries, vous voyez à peu près, derrière le stade Geoffroy Guichard. Et jusqu'à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, j'ai grandi au Marais. Et puis tout le reste de ma vie jusqu'en 1985, c'est Moreno à la ZUP. Édouard Lalot, pour ceux qui connaissent, vous savez, à côté de l'église, il n'y avait que ce bâtiment. Donc, et j'ai habité à Moreno fin 70, donc octobre 70. Il y avait un demi-immeuble. Tout le reste, c'était des jardins. Donc ce qu'on appelait, c'était les jardins Café Rouge. Voilà, c'était un lieu de regroupement des chasseurs du coin. Voilà.
Quel métier faites-vous et où travaillez-vous ?
Alors, en l'occurrence, je suis éducateur à la sauvegarde de l'enfance. Et depuis, on va dire, plus de 17 ans, je suis mi-temps éducateur à la sauvegarde de l'enfance en prévention. Vous connaissez peut-être des éducateurs sur Moreno de la sauvegarde. Et je suis mi-temps éducation nationale, mise à disposition par la sauvegarde pour travailler dans les collèges du département, mais sud. Voilà, donc ça veut dire en dessous de Montbrison, Feur, et ça veut dire, vous imaginez, les deux vallées, Gier-Ondaine et Saint-Étienne. Et je suis mis à disposition à mi-temps pour l'éducation nationale. Je travaille au dispositif relais.
Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit ?
Routier. Je voulais conduire un camion, mais j'ai fait ça. Parce que lorsque je suis sorti de Marseguin, je suis allé à Benoît Fourneyron, la Métard, pour ceux qui connaissent. J'ai fait donc rectifieur-tourneur. Et puis, il fallait avoir un CAP et un BEP pour pouvoir accéder à l'école à Saint-Chamond-Claude-le-Bois, pour pouvoir passer un CAP à l'époque de conducteur routier, transport public et conducteur d'engin. C'est ce que j'ai réussi à faire et ce que j'ai fait.
Avez-vous des souvenirs de la colline avant la construction des tours ?
Oui. Il n'y avait aucun immeuble. Tout vert, c'est ce que j'appelais le Café Rouge. C'était des jardins. Mon père avait un jardin. Donc moi, j'allais acheter le lait avec une... Vous vous moquez pas. Avec une biche. Chez la ferme qui est... Vous savez, quand vous êtes au PAC, il y a une boulangerie là, à nouveau, un endroit, vous savez, vers le terrain de foot. Et en face, il y a une colline verte. Bon, c'était chez le paysan qui s'appelait Durieux. Et moi, j'allais chercher mes 2 litres de lait tous les matins, y compris quand j'allais à l'école. Donc j'allais chercher, parce qu'à l'époque, on achetait le lait comme ça, je me souviens plus ce que c'était en francs, mais ça devait être, mettons, 1 franc les 2 litres de lait, ce qui était cher. Mais on avait du lait de vache, quoi, voilà. Et moi, la colline, c'était que de la verdure. J'allais, par exemple, chercher des châtaignes avec mes frères et mes sœurs. Voilà. J'allais, par exemple, les mûres, vous savez, des confitures de mûres, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Les framboises sauvages, tout ça. Parce que c'était le seul... Mais c'était vraiment sauvage. Vous savez, c'est ce que j'appelle... Quand vous passez de l'autre côté de Moreno, par exemple, derrière l'église, derrière le gymnase, derrière l'école Pagani, vous avez vu tous ces prés, ça va jusqu'à la route qui va entre la Talo et l'Étral. Et ben, c'était comme ça. Toute la colline était comme ça. Jusqu'au Marais, là, ce que je vous ai Citroën. Puisque le périphérique que vous voyez, là, celui que on prend à la sortie vers le McDo Moreno, là, l'autoroute, là, enfin, ça n'existait pas, moi.
Pourquoi vos parents se sont-ils installés à Moreno ?
Je vais vous parler, mais ça va prendre 1 minute, mais il faut que je vous précise pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de dire les choses. À l'époque, vous savez, quand il y avait ce qu'ils appelaient des cités de transit. Alors, normalement, dans cité de transit, ça veut dire on transite, quoi. C'est pas définitif, c'est vous êtes que de passage en attendant qu'on trouve mieux. Et les cités de transit, elles duraient 20 ans. Les gens, ils transitaient longtemps. C'était ça. Mais sachez que dans le nord de la France, par exemple, tout ce qui est de la sidérurgie, la mine, mais même dans un bassin sidérurgiste comme le bassin de la Loire, les gens étaient dans des cités, il y avait beaucoup de cités de transit. Alors il y avait Grangeneux, Reveux, il y avait le Marais, rue des Assyries, vous savez, vers Citroën, au Marais, là. Vous voyez, il y a un mur à droite, tout le long, qui va jusqu'à la station à Gip. À droite, c'était une cité qui était tout le long. À gauche, c'en était une autre. Et là où il y a les jardins, vous savez, juste en bas de la descente, là où il y a un arrêt de bus à droite, en face de Citroën, là aussi, c'était une cité qui était en travers. Donc moi, j'ai grandi là. Voilà. Et mes parents, on leur a proposé, Creusot leur proposait à l'époque. Parce que, vous savez, c'est comme les enfants de Michelin et les enfants de Peugeot. Vous savez, les entreprises, elles étaient tellement géantes. Elles avaient 7000 salariés. Elles avaient le comité d'entreprise et tout. C'est quasiment les entreprises qui faisaient une partie de la vie des gens. Et donc, Creusot-Loire a proposé à une partie de ses ouvriers ou d'habiter au Castor, que vous connaissez. C'est les villas en dessous du Pac Saint-Saëns. D'accord ? Ou d'habiter à Moreno et d'accéder à un logement. Alors, pour tout vous dire, bon, vous rigolez pas. Hein. C'était la première fois que je voyais une baignoire. Comme ça, vous avez compris, c'était du luxe.
Quel souvenir avez-vous de Moreno à l'époque ?
J'avais jamais vu déjà un immeuble à 4 étages. Vous imaginez, je venais d'une cité. Puis, c'était le luxe. Parce qu'avoir un balcon qui fait déjà 4 mètres carrés, c'était quelque chose. Moi, je savais même pas. Hein, parce qu'on avait, moi, je vivais dans un appartement qui était directement accès au jardin, machin et tout. Bon, c'était pas un appartement, c'était une maison mise à disposition, vous savez, c'était les cités ouvrières, ce qu'on appelle les cités ouvrières. Et accéder à un endroit où on a une salle de bain, deux WC, une autre salle d'eau, une cuisine, un balcon, un garage, une cave. Comme vous vous rendez pas compte, c'était trop. Je voulais pas dormir à la cave, hein, mais pas loin.
Avant le collège, dans quelle école alliez-vous ?
Je suis allé à l'école du Marais, je ne sais pas si vous connaissez. La station-service, vous la voyez, au Marais, rue des Assyries. À droite, derrière le stade Geoffroy-Guichard, il y a une école, là. Maintenant, c'est une association de portugais, je crois. Hein ? Et moi, je suis allé là avec des instits qui ont après été... J'ai retrouvé mes mêmes instits, hein, c'est important parce que je perdais mes repères. Mais quand elle a été fermée, parce qu'on a logé tout le monde à Moreno, bah, j'ai retrouvé mes mêmes instits. À l'école Paganini. Alors, le directeur, il s'appelait Monsieur Borde.
Quels étaient les autres collèges du secteur ?
Et moi, je suis fils d'ouvrier, comme beaucoup, hein, dans cette région-là. Mais l'idée même de quitter le Marais et Moreno pour prendre le bus et tout, c'était un voyage extraordinaire, quoi. Donc, je ne connaissais pas. Maintenant, je vous dis, le seul dont j'avais entendu parler, c'était celui de la terrasse, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de l'ouvrir à temps. Donc, il était possible qu'on se retrouve là-bas. Voilà.
En quelle année avez-vous été à Marc Seguin ?
La deuxième année, voilà, mais je confonds parce que j'avais un frère qui était là aussi en première année d'ouverture, d'inauguration, et ils avaient fait venir, vous savez, moi j'étais à Paganini à l'école primaire, bon, donc ils avaient fait venir toutes les écoles primaires parce que c'était une fête quand même, vous imaginez un collège, depuis le temps que les gens l'attendaient, donc et il est beau et il était beau.
Qu'est-ce qu'il y avait avant que le collège soit construit ?
Il y avait un jeu de boules derrière, je connais bien le coin, hein. Ici, juste derrière votre collège, là, ici, il y avait des cabanes et il y avait une association de boulistes. Et plus loin à droite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un emplacement où on peut rentrer en voiture, vous y allez jamais. Mais là, il y avait une épicerie. Et l'épicerie, si j'ai pas de mémoire, s'appelait Madame Ravel, parce qu'on allait acheter des bonbons à la récré. Vous le dites pas, hein. Normalement, faut t'avouer à moitié pardonné. On est d'accord. Donc, il y avait une épicerie, il y avait un jeu de boules qui était là derrière, il y avait des cabanes. Et les cabanes, elles ont été détruites après, parce que là, je suis passé. Mais ces cabanes, je vous dirais, le collège les a récupérées, même s'ils n'avaient pas le droit. Mais on a fait des choses dedans qui ont servi à l'association, au collège et tout. Ouais.
Que représentait pour vous le fait d'arriver dans un collège tout neuf ?
C'était surtout sortir d'une école primaire et aller dans un collège. Déjà, quand vous êtes sixième, vous avez vu la joie que ça fait d'avoir un emploi du temps, de changer de classe, déjà. Enfin, moi, ça me faisait ça, en tout cas. Et puis surtout, l'idée même de descendre à pied, là, partir loin de chez moi. Et descendre à pied, parce qu'il n'y avait pas de bus à l'époque. On descendait à pied et on remontait à pied. Et puis, il y avait des escaliers, je ne sais pas s'ils existent encore, qui coupent direct, qui atterrissent derrière la tour. C'est des escaliers qui passent au milieu des villas, là. Voilà, ben voilà. Donc, pour moi, c'était important, c'était une forme. Peut-être, maintenant, hein, je le dis comme ça, parce que j'ai les mots, mais une forme d'autonomie. C'est-à-dire, j'étais devenu indépendant, j'étais grand, quoi.
Combien d'élèves y avait-il ?
Alors, tu sais que je voudrais te répondre à ça, mais je peux te dire combien on était à peu près par classe, à l'époque. Entre 20 et 25, parce que c'était la première et deuxième et troisième année, ils démarraient, voilà. Mais quelques temps après, je sais que c'est plus que 20 et 25, hein. Mais moi, dans ma classe, par exemple, on était 25. l'ensemble du collège, par contre, je suis incapable de te répondre, mais je pense que c'était plus de 200. Mais j'avais l'impression de connaître tout le monde. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein.
Quel souvenir avez-vous de votre passage au collège ?
Si je vous dis que des bons souvenirs, vous n'allez pas me croire. C'est normal, parce que j'ai pas que des bons souvenirs. Mais j'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai des souvenirs plutôt agréables, parce que, encore une fois... j'avais jamais pensé aller dans un collège parce que pour moi l'école c'était l'école primaire, donc c'était nouveau pour moi. Les profs à l'époque avaient peut-être les mêmes choses que vous, mais j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Taille, il était mon prof de gym. J'avais une prof qui était mon prof de français, elle s'appelait Madame Brosset. Je sais pas où ils sont, hein. On est d'accord, hein. Je vous donne des noms de profs. Et c'était des gens qui concevaient par exemple leur métier. C'est agréable pour un élève, hein. Beaucoup plus en dehors du collège que dans le collège. Maintenant, pour des raisons d'assurance, vous le dites tout de suite, même moi, je le ferais pas. Hein, parce que... Mais à l'époque, donc, on allait, par exemple, on faisait beaucoup de sorties extérieures. Vous savez, avec la prof de français, par exemple. Mais j'avais une prof, ça va vous faire rire, mais j'avais une prof d'un collège qui s'appelait Madame Lallemand. Et tous ces profs-là, ils avaient beaucoup, à l'époque, beaucoup d'adhésion des élèves dans les projets qu'ils proposaient. Donc, pour moi, ce que j'ai vécu là, c'est... Ça m'a permis quand même de ce que j'appelle une forme de promotion sociale. C'est-à-dire que c'est aussi grâce à eux qui m'ont permis d'aller plus loin, de voir des choses. Voilà, je ne les vivais pas que comme des gens qui étaient là pour me transmettre et point barre. Quoi. C'était pas que ça, d'accord ? Parce qu'on faisait des fêtes au collège. Il y avait, par exemple, dans ma classe, moi je m'en rappelle, j'avais Madame Brosset qui aimait bien fêter les anniversaires. Particulier, hein ? Parce que, alors on prenait une demi-heure et voilà, elle faisait les anniversaires de chaque élève. Et voilà, on tournait par exemple avec ma prof d'anglais qui s'appelait Madame Lallemand, on a tourné un film dans la cabane, c'est pour ça que je vous parlais des cabanes là. Un film et on avait chacun un rôle, alors on avait des noms, mais on était acteurs quoi. Le scénario, alors le film je sais pas où il est, si vous saviez comme je rêve de le retrouver. Voilà, mais j'ai vécu d'autres choses que je pouvais pas vivre à la maison, forcément. On m'apportait d'autres choses. Voilà.
Quelle matière aimiez-vous et pourquoi ?
T'as pas une autre question ? Non, je rigole. Il y avait des matières que j'aimais moins, mais parce que j'étais plus en difficulté, mais je te dirai pas lesquelles. Elles sont toutes nécessaires. Là, c'est la morale qui revient. Mais il y avait des matières, forcément, comme tous les élèves du monde, où je me sentais moins bien à l'aise dedans. D'accord ? Parce que j'ai pas une culture de l'école. Pour tout vous dire, allez. Mais vous pleurez pas, hein. J'avais mes parents, c'est ni lire ni écrire. Donc la seule chose que mon père nous disait, c'était de nous dire, attention, l'école, c'est la promotion sociale. C'est comme ça. Parce que mon père, il rêvait tous qu'on soit en blouse blanche, vous savez, dentiste, kiné, machin. Quand je lui disais boulanger, il aimait pas bien. Parce que c'est une blouse blanche aussi, on peut, boulanger ou charcutier, mais il voulait pas. Mais voilà, alors, qu'est-ce que j'aimais ? J'aimais tout. Je savais que j'avais besoin de tout. Mais par exemple, j'avais plus de difficultés en anglais. Mais parce que chez moi... Mon père, par exemple, il nous disait, c'est important que vous parliez et le français, mais aussi l'arabe. Alors, je parlais arabe. Alors, ça partait de mon sentiment. Hein. Il nous a inscrit, par exemple, à l'école arabe. Il y avait une école arabe à Moreno, qui était, c'était le curé de l'église, vous savez, au terminus. Ben, le curé, il a organisé dessous, derrière, là, vers l'école Paganini, vous savez, derrière l'église, hein, il a organisé des cours d'arabe. Alors, j'avais un prof d'arabe, alors j'y allais. Samedi après-midi et le dimanche matin. Donc j'avais tout le temps école en fait. Voilà, donc j'étais là-bas, plus il fallait que je fasse ici, plus il. Hein, l'anglais, j'avais du mal parce que c'était pas. Maintenant je le regrette. Hein. Je le parle, j'ai repris des cours, mais je parle l'anglais sous la torture, quoi. Vous imaginez comment ça fait. Quand je vois mes enfants, moi j'en ai trois qui parlent l'anglais couramment, dont un qui vit en Angleterre, mais je l'admire. Voilà, je me dis ça, voilà. Les maths, mais ça, c'était... Et mon père, il avait beau essayer de m'expliquer que c'était utile, c'était utile, je faisais des efforts. Après, plus tard, j'en ai eu besoin, effectivement. Mais j'ai eu plus besoin, par exemple, du français, de l'histoire géo. Par exemple, je suis un passionné d'histoire géographie. Mais à tous les niveaux, la géopolitique et tout. Voilà, vous rentrez dans ma voiture, c'est les infos 24 sur 24, moi. Hein. Mes enfants, ils se bouchent les oreilles avec moi. Donc voilà, tout était bon pour moi, tout était à apprendre, mais parce que aussi j'étais assoiffé un peu. Peut-être parce qu'à la maison, il y avait peu de choses, non pas que mon père et ma mère voulaient pas, mais il y avait peu de moyens. Pour tout vous dire, je suis issu d'une famille de 12 enfants, avec mes parents, ça faisait 14.
Je
vous dis que ça, et tous dans le même appartement, c'était un F6, hein, à Moreno et Dorlalo.
Quel genre d'élève étiez-vous ?
J'étais content de rencontrer des gens qui allaient m'ouvrir l'esprit un petit peu et voir d'autres choses, d'accord ? Avec les profs, moi j'étais content quand on me disait par exemple, on va faire une sortie. Alors là, j'étais en avance, je peux vous dire, une demi-heure avant. Hein. Mais si jamais on me disait par exemple, on va faire un contrôle, bon, je traînais la savate. Vous voyez ? Passionné par ce que j'aime. Mais par contre, si je m'y mettais complètement. Voilà, j'étais un élève moyen. Je ne veux pas dire faible ni fort, moyen. Comme vous, je suppose.
Avez-vous gardé des liens avec des anciens camarades ?
Tous. Ah, ça dure 11 ans. Pas toute ma classe, mais au moins ceux qui habitaient, par exemple, parce qu'il y a Édouard Lalo. Et après, ils ont construit Jean-Baptiste Lully, pour ceux qui connaissent. Après, le centre commercial qui est fermé maintenant, en haut, à côté d'Édouard Lalo. Et après, ils ont fait pousser juste en face, vous savez, la tour Édouard Lalo. Après, Darius Milhaud, la copropriété privée. Mais Chabrier, Claude Debussy, le Forum et tout, n'existait pas, moi. C'était la tour. Moi, je l'ai vu et sortir et se détruire. Hein. Alors, comme ça, au moins, j'ai fait le tour, comme on dit. Oui. Alors, mes collègues, eh ben, ouais, j'ai des gens qui étaient avec moi dans la classe qui sont tous allés après en lycée, machin et tout. Certains sont sur Saint-Etienne et ont des postes clés. Il y en a qui sont inspecteurs, enfin, au commissariat Corforiel, d'accord, qui sont responsables. Il y en a qui sont ophtalmo, orthodontistes. Il y en a qui sont chefs d'entreprise. Voilà, il y en a qui sont à l'éducation nationale, qui sont des filles, donc c'est mes cousines, donc je le sais, responsable du service social de l'éducation nationale, voilà, avec Madame Mulmer. Ils ont tous des postes. Alors, vous allez me dire, mais Monsieur Amouche, pourquoi ils ont pas tous ça, hein ? En tout cas, vous imaginez, ils sont de ma génération, donc on a tous à peu près entre 47, 51 ans, 52 ans. Et ça veut dire que quelque part, ils sont tous en situation professionnelle, et à quelques exceptions près, qui sont... je veux dire qu'ils n'ont pas de boulot, malheureusement, je le déplore, mais j'en connais aussi de mes copains et mes copains. Surtout chez les garçons, hein, qui n'ont pas de boulot, que je vois encore, hein, qui n'ont pas bougé de Moreno d'ailleurs.
Par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ?
Moi, je peux vous dire une chose. Je suis surpris par... Monsieur Bello aussi, regardez le regard qu'il va me faire. Je suis surpris. L'espace vert, c'est le même. Donc ça ne me dérange pas. C'est quasiment, je retrouve. Le bâti, c'est le même. D'accord ? Là-bas, par exemple, les surveillants étaient, vous savez, l'immeuble qui était là-bas au fond. Il y avait le principal qui vivait et le principal adjoint. Il vivait dans l'immeuble là-bas. Et il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup. Parce que, bon, j'espère que les gens le prendront bien. On l'appelait Dalton. C'était un monsieur petit et tout. Mais quand il nous chopait à l'entrée, parce qu'il n'y avait qu'une entrée, c'était là-bas. Hein. Quand il nous chopait à l'entrée, il rigolait pas, quoi. Il n'avait pas envie de rire. En fait, vous savez qu'il était ce qu'on appelle les mobs, c'est-à-dire il s'occupait de l'entretien de l'immeuble. Mais c'est pas vrai, hein. Il n'y avait pas d'entretien qui compte, hein. Tout le monde faisait tout. Donc il nous attendait à l'entrée, il avait un trousseau de clés. Je vous dis pas, hein. Il pouvait ouvrir tout et n'importe quoi. Hein. Et vous savez, c'est comme dans Fort Boyard, là, comme il s'appelle, le petit qui a des trousseaux de clés. Ah, il avait la même. Et si vous saviez, et ce qui me surprend le plus, c'est. Mais je sais que M. Bellouchif sera d'accord avec moi, c'est les barreaux, les fenêtres et tout. Ça, moi, tout le temps, quand j'ai vu, et les couleurs de ces barres, vous savez, le gris du portail. Moi, je sais pas, je suis quelqu'un plutôt vif, vous savez, marguerite, machin et tout. Les couleurs, j'adore ça. Voilà.
Pensez-vous que votre passage à Marseguin a joué un rôle dans le choix de votre métier ?
Dans le premier métier, conducteur routier, sûrement.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Bah d'abord vous remercier. Les questions quand même, c'est pas simple. Concernant les questions de ma scolarité, vous évitez la prochaine. C'est un peu compliqué. Vous m'éviterez de me dévoiler parce que sinon je serai obligé de vous dire que des fois j'étais pas parfait non plus. D'accord ? En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Et je vous dis simplement que dans le collège où vous êtes, mais je le dis pas parce qu'il y a M. Bellouci, ou parce que vous avez un des collèges en espace vert. En espace vert, hein, je vous le dis, parce que, par exemple, si on me donnait à choisir, moi, j'ai pas à choisir, mais il y a deux ou trois collèges, si on me les donnait à choisir entre là et là, notamment ceux du centre-ville, où j'ai une de mes filles qui est allée, je préfère là. Et des fois, je lui dis, moi au moins, j'avais des arbres, j'avais mes onges, j'avais le terrain de foot, j'avais tout autour. Voilà. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai beaucoup marché quand j'étais jeune. Hein, parce que 4 fois aller-retour dans la journée à Moreno, ça faisait beaucoup, je peux vous le dire. Descendre, c'est facile. Remonter, c'est très dur. Mais c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. J'espère que vous serez là pour les 40 ans.